Bonjour, ici Chantal Lavoie. Bienvenue à l'émission Aime l'été. C'est un bonheur de vous retrouver en ce début de semaine, le lundi 12 août. On va pas trop s'attarder dans la présentation puisqu'on a une émission très chargée. On rencontre une artiste de la scène lyrique québécoise dont la carrière est en pleine ascension. On va parler d'un événement musical qui réunit le grand public autour de la musique classique et place à deux invités qui viendront partager leur point de vue autour notamment de l'intelligence artificielle. On va parler avec un auteur et une chercheuse en éthique. Alors voici notre émission Aime l'été. Aujourd'hui, on va consacrer notre deuxième demi-heure aux enjeux éthiques de l'intelligence artificielle avec Emmanuelle Marceau, éthicienne, chercheuse et professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, mais aussi avec l'auteur, dramaturge, acteur, metteur en scène Jean-Philippe Barry-Guerrard. On reçoit Marianne Dugal, grande violoniste et deuxième violon solo, oui, associée de l'Orchestre symphonique de Montréal. Elle va nous parler de ce que nous propose dans les tout prochains jours la 11e édition de la virée classique de l'OSM. Mais d'abord, on accueille la contralto Rose Nagar-Tremblay qui fait de plus en plus sa place dans le domaine de l'opéra. Elle multiplie les engagements, mais elle a aussi plusieurs cordes à son arc. Nous pourrons l'entendre dans le concert Charlebois symphonique avec justement l'OSM la semaine prochaine. Alors, je vous invite à vous joindre à nous dans la prochaine heure à Aime l'été. Bonjour Nathalie.
Bonjour, comment vas-tu?
Ben oui, bon début de semaine, effectivement. Et puis on est un petit peu comme un petit peu plus tendu parce qu'on reçoit des invités quand
de
même.
De marque, hein?
De marque, oui, des gens qui nous, enfin pour nous,
qui nous
ben, tous les invités sont importants, mais
oui.
Bon, là, c'est sûr que c'est une grosse émission. Ouais. Et puis, ben, désolée pour le petit bafouillage du début parce que. J'étais un peu comme sur des chapeaux de roue.
Me laisses-tu parler du 12 août?
Oui.
Nous sommes le 12 août aujourd'hui.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Donc, achetons des livres québécois. Ça fait 11 ans. Écoute, il y a 11 ans, Amélie Dubé et Patrice Cazot, qui sont auteurs, mais instigateurs de cette journée-là. Achetons un livre québécois. Écoute, selon un bilan qui est produit par la Banque de titres de langue française, les ventes d'ouvrages de films de fiction québécoise se sont multipliées. Écoute, dans les dernières années, le 12 août est devenu dans les librairies la fête des livres québécois. Alors, allons encourager nos auteurs québécois.
Et aussi les librairies indépendantes, très
importantes. Oui, exactement.
Alors, on va accueillir tout de suite, dans un instant, c'est-à-dire Rose Nagar-Tremblay. Alors, je vous laisse d'abord l'entendre. Alors, nous entendions Rose Nagar-Tremblay, étoile montante de la scène lyrique, mais je pense qu'on peut commencer à dire que vous êtes pas mal une artiste déjà plus établie. Bonjour, Rose.
Bonjour, Chantal.
D'abord, félicitations, vous vous êtes mariée en fin de semaine.
Ben oui.
Ça s'est bien passé.
Est-ce qu'on décrit encore une étoile montante? Maintenant, je suis femme.
En tout cas, mais vraiment très heureuse de vous recevoir. Bon, vous êtes encore bien jeune. On peut dire que chaque carrière est différente. Les parcours sont variés aussi. Alors, vous êtes une chanteuse lyrique. Vous êtes, ben, comme je l'ai dit, vous êtes en pleine ascension dans la mesure où vous avez là, plein d'engagement. Et puis, les dernières années ont déboulé là, à partir particulièrement de 2022. Là, ça a été assez occupé là. Puis vous revenez de tourner en Europe. Vous étiez au Festival de l'Opéra de Québec cet été. Alors, ça n'arrête pas?
Oui, ça n'arrête pas. Ça a été vraiment, j'ai fait 4 festivals, 2 en France, l'Opéra de Québec et puis le festival en chanson de Petite-Vallée avec une proposition tout autre. Là. Donc, le dernier mois a été très, très chargé en plus des préparatifs de mariage.
Exactement. Oui, alors, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a dit on ne va pas la faire venir en studio. Là, elle est en lune de miel quand même. Alors, justement, ce qu'on entendait, c'était tiré de ce mini-album, là. Je me souviens à toi.
En fait, là, cet extrait-ci, c'était, ça fait partie du cycle de mélodies que j'ai écrit avec Luna Pearlwolf. Luna a fait la musique, moi j'ai écrit les textes. C'était pour un récital à la salle Bourgie.
Ah, d'accord.
En décembre dernier.
Oui. Ah, parfait. OK, c'est ça. Mais vous avez effectivement sorti un mini-album, Je me souviens à toi, qui est en fait un mélange où on est au carrefour là, de la chanson française, de la musique néoclassique et de l'opéra. Mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement vous êtes une artiste lyrique, vous chantez, mais vous composez également. Vous êtes une autrice-compositrice en même temps.
Oui, j'ai toujours hésité entre les deux univers, la musique classique et puis la chanson de tradition francophone, la poésie en musique. Puis c'est les univers qui m'ont porté tout le long de ma formation. Puis maintenant, je suis vraiment très heureuse de pouvoir laisser une petite place aux deux dans mon parcours professionnel.
Oui. Rose Nagar, vous savez qu'on a en studio avec nous Marianne Dugal, violoniste à l'OSM, justement, qui va nous parler de la virée classique et puis qui sera sans doute... Bonjour, Marianne, qui est
Bonjour.
À mes côtés.
Bonjour, Rose.
Bonjour, Marianne.
Et puis, vous allez, je pense, être sur la même scène lors de ce concert Charlebois Symphonique qui s'en vient la semaine prochaine.
Oui.
Alors, évidemment, c'est ça, on va parler à Marianne tantôt. Et puis, justement, ça nous permet de parler de toute la musique classique, bien sûr. Mais vous avez quand même un parcours, vous avez étudié le chant classique, mais à un très jeune âge quand même, vous aviez cette maturité-là.
Je dirais que j'avais pas du tout la maturité vocale quand j'ai commencé à étudier le chant classique. J'ai commencé à 12 ans, mais en fait, avant, je faisais du piano. J'étais excessivement paresseuse avec ma pratique de piano. Puis à chaque fois que j'arrivais à mes cours de piano, en fait, je chantais. Ce qui est drôle, c'est que contrairement à la plupart des enfants qui veulent faire que la main droite, moi, je jouais que la main gauche et puis je chantais les mélodies. puis j'arrêtais pas de dire à tout le monde à l'école, je veux être dans la classe de chant. En fait, je veux être dans la classe de chant. Puis finalement, c'est la directrice Geneviève Boulanger qui était aussi la directrice de la chorale parents-enfants. Qui a fini par m'accepter dans sa classe de chant à 12 ans parce que j'insistais vraiment trop. Mais ça a été quand même très formateur. Puis justement, Geneviève a su créer un espèce de cursus qui était sur mesure pour une chanteuse trop jeune qui s'intéresse à la musique classique trop tôt.
Ouais. Rose, ouais, il y a Nathalie ici aussi qui est en studio avec nous, notre chef recherchiste qui a des questions à vous poser.
En fait, j'ai une question pour vous parce que vous avez commencé très jeune, le dites, mais je trouve, on a reçu plusieurs personnes durant l'été, des gens qui sont dans la musique classique et tout ça, et je trouve que la clientèle rajeunit beaucoup, votre clientèle rajeunit, il me semble. Ouais. Pour être allée moi-même voir un spectacle, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à votre art.
Ah, ça, c'est une belle nouvelle à entendre. Moi, je le constate, je dirais que je constate une mixité dans les salles. Mais si vous me dites que vous voyez un rajeunissement, ça me touche beaucoup. Je pense qu'on essaie, partout où on va, dans toutes les institutions, on se demande toujours comment on fait pour être pertinent, comment on fait pour toucher les gens. Puis on essaie de créer des spectacles de plus en plus... rien que soit en, disons, texture sonore ou juste en utilisation des médiums ou même des thématiques sont abordées. Je pense que on essaie. Tout le monde se gratte les ménages pour essayer de trouver la porte d'entrée. C'est une porte d'entrée qui est claire pour les différents publics.
Et vous êtes très accessible aussi en même temps parce que, souvent, vous êtes sur les réseaux sociaux. Alors, bien sûr, puis vous vous engagez aussi dans des causes en même temps. Vous êtes quand même... Il y a votre côté pédagogue aussi. Alors ça, c'est important pour la transmission. Alors ça peut faire naître de belles carrières.
C'est ce qu'on espère. Moi, j'ai été chanceuse parce que, justement, je suis tombée en amour avec l'opéra grâce à une initiative de l'Opéra de Montréal qui a ouvert ses générales aux écoles. Puis c'est donc en allant voir une générale publique à l'Opéra de Montréal que je suis tombée en amour avec l'opéra. Je trouvais que c'était quelque chose d'immense, qui était tellement rassembleur, et là, de voir tout le monde sur scène, mais aussi tout le monde dans la salle, puis l'espèce d'amplitude de cette forme artistique pour moi qui était très, très grande et très, très complexée déjà. Il y avait quelque chose dans cette immensité qui me faisait sentir toute petite, puis j'avais envie de...
Ouais. Vous avez étudié, bien sûr, c'est-à-dire pas autre votre formation, vous avez été à l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal. Ça a été très formateur, ça.
C'est vraiment parce qu'ils ont su me prendre exactement où je suis dans mon parcours. J'ai une voix très longue en termes de registre et elle n'était pas complètement unifiée quand je suis rentrée à l'atelier lyrique. Par contre, j'avais déjà beaucoup de volonté de créer. J'étais déjà dans l'écriture. Ça faisait longtemps que je donnais des ateliers d'écriture. Donc, ils m'ont trouvé une place au sein du département de médiation artistique jusqu'à temps que ma voix soit vraiment formée puis prête à prendre d'assaut les concours. Puis d'ailleurs, le concours de l'OSM qui a vraiment été un point tournant pour moi.
Mais absolument.
Qui a lancé ma carrière à tout le moins au Canada.
Oui. Pas facile, les concours, justement, parce que c'est de trouver notre identité vocale. Et comme vous dites, ça... Finalement, l'atelier lyrique de l'opéra vous a quand même aidé aussi beaucoup à ce niveau-là. Vous avez joué notamment le rôle de Carmen à l'étranger. Ça a été parmi vos premiers engagements, notamment à l'opéra de Sofia en Bulgarie.
Oui, ça a été mon tout premier rôle en Europe. Et d'ailleurs, ça, c'était ce qu'on appelle un jump-in, parce que en remplacement de dernière minute en français, parce que j'ai appris 2 semaines avant le début des représentations que la Carmen s'était désistée. Et moi, je devais chanter Mercedes. Mais j'étais en train de faire, dans le quartier des spectacles de Montréal, un spectacle de Carmen qui était mixé avec des artistes de hip-hop. On avait des danseurs, rappeurs. C'est comme une relecture de Carmen. Et puis, je chantais peut-être le tiers du rôle au complet dans cette production-là. Mais moi, j'ai un peu menti, mon directeur de faire Sofia. Et je lui ai dit, oui, je suis en train de faire Carmen à Montréal. Je suis toute prête à le faire. Donnez-moi le rôle, je vous décevrai pas. Et puis, il me l'a accordé. Donc, j'ai passé les 2 semaines qui ont suivi à coacher sans arrêt pour remettre le rôle sur pied. Je savais quand même que j'y arriverais parce que je l'avais déjà fait au complet en version piano. Mais là, c'était une première fois où je chantais dans une production complète avec orchestre et chœur.
Rose, j'ai l'impression d'entendre un bon scénario de film. La personne, le rôle principal qui se désiste et puis finalement, vous avez eu le rôle.
Ah oui, mais enfin...
Une belle histoire.
Depuis, il y a eu plein de choses. Et puis comme on a dit, le concours OSM, il y en a eu d'autres. Vous avez remporté en 2021 le premier prix d'opéra du concours UNESCO Paris, deuxième place au prix d'Europe. Enfin, je ne les fais pas dans l'ordre nécessairement, mais enfin, il y en a eu plein. Révélation à Radio-Canada aussi en 2022-2023. Bref... Et puis, vous avez fait des comédies musicales également avec l'Orchestre de la Francophonie. On pense à West Side Story en 2019. Mais là, il y a bien d'autres choses qui s'en viennent, notamment un concert bande symphonique qui s'en vient. Bon, je pense que c'est en décembre. Hein, ça commence, ça va être présenté en 2024-2025.
C'est ça, oui. Ouais. Ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est la mixité des projets qui me sont présentés, qui me sont proposés. Je pense que c'est ce que j'ai réussi à mettre sur table avec mes équipes. Je suis vraiment reconnaissante de pouvoir m'épanouir dans toutes sortes de médiums artistiques.
Rose, qu'est-ce que c'est le band
symphonique?
Oui. ça va être toutes les chansons thèmes, les incontournables de James Bond. avec l'orchestre Philharmonique qui est dirigé par Francis Chouanière.
Oui, tout à fait. Génial. Mais là, il y a aussi un autre projet qui s'en vient très prochainement et ça rejoint Marianne Dugal, qui est à l'OSM aussi, violoniste. Et puis, alors, c'est le projet Charlebois Symphonique.
Oui.
Alors là, est-ce que vous allez faire Lindbergh, finalement?
J'ai-tu le droit de révéler ça?
C'est un secret.
Alors, que je peux vous dire que je vais chanter avec Charlebois quelques jours. Ça va être un grand bonheur d'être en scène avec lui. C'est quelqu'un que j'ai chanté beaucoup avec mon père quand j'étais petite. Et que c'est comme pour moi, c'est un peu le point que... Tu sais, d'ailleurs, c'est la première fois que je fais un concert qu'il y a autant de membres de ma famille qui veulent venir.
Alors ça s'en vient. C'est la semaine prochaine, hein, c'est 22, 23, 24, hein, n'est-ce pas, Marianne, aussi. Alors, vous serez là aussi sur scène. Oui. Alors, toujours... Alors, vous en faites des concerts, vous, Marianne. On va en parler dans un instant. Mais Rose aussi. Alors, il y a plein de choses qui s'en viennent. Et puis, comme je vous dis, là, vraiment, vous êtes à la fois polyvalente, créative. Vous faites plein plein de choses. C'est ça qui est intéressant. Ça nourrit de belles carrières et puis vous êtes très inspirante aussi. Donc, vous avez fait des choses quand même avec co-compositrice avec Éric Champagne, qui est quand même un grand compositeur de musique ici au Québec, sur la scène classique notamment. Alors, bref, je pourrais parler avec vous pendant des heures, mais je pense qu'il va falloir on va vous laisser à votre lune de miel.
C'est gentil. Merci. On se reprendra. Ça me ferait plaisir de
Mais oui, c'est ça. Ce serait merveilleux parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas. Et puis, on n'oublie pas ce mini-album, Je me souviens à toi aussi. Alors, très intéressant comme album. Et puis, ben, écoutez, bonne chance pour la suite, Rose.
Merci. Et félicitations pour ce mariage.
Merci beaucoup.
Et à bientôt.
Oui. Au revoir. Merci. Et oui, alors on accueille Marianne Dugal qui était déjà avec nous en studio, bon membre des premiers violons de l'OSM pendant près de 10 ans, mais ça fait déjà bien longtemps. Oui, il y a beaucoup d'eau. Et ben en 2008, hein, vous avez été nommée deuxième violon solo associé. Oui. Alors on vous entend donc, c'est-à-dire qu'on vous entend aussi faire des solos. Vous joignez aussi à des orchestres de chambre également.
Je suis facile à trouver. Moi, je suis à l'OSM.
Oui, c'est ça, très facile.
Si vous voulez me voir.
Alors évidemment. Vous allez, on va parler avec vous, bien sûr, de la virée classique. Hein, c'était le but de votre visite, mais préalablement, juste situer quand même qui vous êtes et puis parler que la musique, ça a toujours fait partie de votre vie, là. Et avec votre frère, qui est Mathieu Dugal aussi, c'est sûr, vous êtes membre d'une belle famille.
Oui, il y en a deux autres aussi, à part Mathieu.
C'est ça.
Ils sont tout aussi intéressants.
Exactement, là. Vos parents étaient des musiciens aussi.
Oui, absolument. En fait, mon père était professeur de musique au Cégep d'Alma. Puis ma mère était violoniste semi-professionnelle amateur. C'est grâce à elle que j'ai joué du violon parce qu'elle enseignait dans le sous-sol chez nous. Donc, du plus loin que je me souvienne, j'allais écouter les cours puis je la suppliais de faire du violon. Puis elle me disait non. Non. Finalement, j'ai commencé au piano pour me familiariser avec le langage de la musique. Puis j'ai continué d'insister. Donc, je veux dire, j'avais 4 ans. Puis à 5 ans, j'ai eu mon premier violon. Puis, the rest is history. J'ai fait ça toute ma vie depuis. C'est ça. C'est une vocation, en fait.
Je pense bien, parce que même autour de souper de famille, de quoi on parlait chez les Dugal? On parlait de musique.
Oui, c'est ça. Mais en fait, ma famille sont des mélomanes extraordinaires. Ils s'intéressaient tellement à ce que je faisais. Fait que c'est pour moi, c'était une motivation de continuer parce qu'ils me demandaient comment était ta pratique, comment était ton concert, comment était ta répétition. Ils venaient à tous mes concerts. Ils continuent de venir, sont omniprésents. Ils viennent à la virée, justement. Ils ont leur parcours. Tout le monde vient faire son tour. Ça, je suis contente parce que c'est des bons mélomanes, puis c'est des mélomanes critiques aussi. Quand j'avais mal pratiqué, j'en entendais parler.
Est-ce que les quatre étaient musiciens?
Tout le monde en a un petit peu fait.
Okay.
Mon frère Mathieu, qui est journaliste, était oboïste, mais il parlait trop pendant les répétitions. Histoire vraie. Mon frère qui me suit, Simon, qui est pilote d'avion, qui était pilote de F-18 dans l'armée, fait du violoncelle et de la guitare. Et mon frère le plus jeune, Louis Dugal. D'ailleurs, vous avez parlé des livres québécois. Mon frère Louis vient d'écrire un livre qui s'appelle « Réfléchir pour mourir moins cave », un livre de philosophie pour les adolescents. Puis lui, c'est un guitariste jazz. Donc oui, tout le monde fait de la musique. Mon père est saxophoniste, ma mère est violoniste, mais pas la façon que moi j'ai choisi de le faire, de vraiment consacrer ma vie parce que, comme je disais, c'est vraiment une vocation. J'ai pas eu d'enfance, j'ai pas eu d'adolescence, j'ai pas eu d'enfance.
Mais c'est un choix, par contre.
Oui,
c'est un choix. Oui, c'est un choix.
Oui.
Est-ce que, je sais que vous le direz pas, mais est-ce que les quatre, vous êtes un peu surdoués?
On est passionnés.
Okay.
On est passionnés, puis on a été... mes parents n'avaient pas un moule pour un qui a fonctionné pour les quatre. Mm-hmm. Les quatre, on était très différents, puis ils nous ont vraiment encouragés dans la branche où est-ce qu'on était, puis il y avait une synergie entre nous. Mm-hmm. C'est-à-dire que, justement, là, les repas, on était toujours les six ensemble. Puis quand un parlait d'aviation, puis l'autre parlait d'intelligence artificielle, ou ça n'existait pas en 1980, là. Mais en tout cas, quand Mathieu parlait de ses affaires,
il était en avance sur son temps, de toute
façon. Exactement. Ouais. Donc, il y avait toujours, on s'encourageait l'un l'autre, puis ça nous intéressait, puis ça nous a toujours impressionnés ce que l'autre faisait. Mm-hmm. Donc, cette synergie-là a fait qu'on a tous réussi. Je ne sais pas si c'est être surdoué, mais moi, je dirais vraiment on était passionnés, puis on a été bien épaulés.
C'est bien dit. Ouais. Et la transmission, on a beaucoup parlé, nous, cet été, de transmission. Ouais. Et puis, ben, justement, c'est parce que, sans le vouloir, vous êtes maman et puis votre mm-hmm. fils est un excellent pianiste, oui, apparemment. Alors, c'est votre mère, je pense, qui a détecté le talent.
Ah, vous savez tout? Oui, c'est ça. Mon fils, c'est un concours de circonstances qui a fait qu'il a commencé le piano assez tard, en fait, là, pour les standards actuels. Là, il y avait presque 9 ans. Il y en a 19 maintenant, puis il arrive de Vienne, là, il a fait ses débuts à Vienne le mois passé, puis on est très fiers de lui.
Alors, c'est merveilleux. Alors, évidemment, on va s'assurer qu'on parle de notre sujet principal,
la virée classique.
S'il nous reste du temps, on aura le temps pour parler d'autres choses. Mais évidemment, alors, la 11e édition de la virée classique, alors ça, évidemment, c'est un héritage de Kent Nagano, bien sûr. Mais là, cette année, c'est intéressant parce que là, Raphaël Pagliari met sa couleur, là. Oui. Et puis là, ça va être vraiment aux couleurs de la Méditerranée, notamment. Oui.
Bien, dans des temps difficiles économiquement, là, rien de tel que d'avoir à se déplacer seulement à la Place des Arts, au quartier des spectacles, pour avoir un voyage complet en Méditerranée. On couvre tellement de pays, les couleurs, les saveurs. Donc, je trouvais que le thème était le fun au cœur de l'été.
C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plusieurs spectacles gratuits.
Oui.
C'est ça, quand on parle de, justement, c'est accessible, les gens peuvent aller les voir, les familles, amener vos enfants,
absolument,
découvrir.
Absolument. En fait, c'est ça qui est le plus magique, c'est que ça a beaucoup évolué au fil des années.
Ouais.
C'est-à-dire qu'avant, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de concerts en salle, puis c'était presque comme les Amazing Race, là, de courir d'un concert à l'autre, il fallait ça. Mm-hmm. Mais maintenant, ils ont changé la formule, puis je trouve ça vraiment très bien adapté aux jeunes familles ou les gens qui ont des ados ou de tous les âges. Mm-hmm. C'est qu'il y a 8 concerts en salle qui sont... On peut aller les voir, les 8, là. Ils se chevauchent pas, on n'a pas besoin de courir entre l'un et l'autre. Mm-hmm. Mais alentour de ça, je pense que 90% de la programmation, c'est des activités gratuites. Puis j'ai fait une petite liste parce que je trouvais ça fabuleux. Ouais. Moi, malheureusement, mon enfant de 19 ans refuse de venir faire du yoga musical avec moi.
Oui,
il y a une projection d'opéra, il y a du yoga, il y a des ateliers sur les instruments, il y a de la danse et de l'éveil musical. Il y a la découverte de la maison symphonique et de l'octobase, qui est comme le plus gros, c'est comme la baleine bleue des instruments.
On voit toujours en haut complètement.
C'est ça. Donc, si les gens veulent se rapprocher, il y a des visites de ça. Donc, c'est le temps d'y aller, là, parce que... Puis, ça donne le goût, peut-être, après ça, on dirait que la glace est cassée. Mm. Quelqu'un va dire, tiens, j'ai aimé ça, la maison symphonique, j'aimerais ça en avoir un peu plus. Les concerts en salle, il y a 2 salles, donc il y a la maison symphonique, quelqu'un qui veut y aller. Ce sont des concerts sans entracte. Le prix des billets est très bas. Sinon, les autres concerts sont à la 5e salle. On voit les musiciens de plus proche. Mm-hmm. On est habitués, nous, on nous voit dans un setting d'orchestre parce qu'on est tous en un gros groupe très loin. 5e salle, beaucoup plus intime, beaucoup plus proche. Puis entre ça, 1001 activités à faire. Puis s'il pleut, tout est organisé pour qu'on puisse le faire à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de souci. C'est vraiment la meilleure façon de passer la fin de semaine prochaine. Là, c'est de venir au quartier des spectacles.
Et puis, ça commence dès mercredi. Là, c'est vraiment le grand concert en plein air. Il va faire beau.
Au stade,
il va faire beau toute la semaine. Alors, on ne peut pas se tromper, là. Alors, sur l'esplanade du stade olympique. Et puis, bon, l'an passé aussi, bon, il y avait eu... Là, c'est toujours animé par... André Robitaille, qui sera là. Et puis, on va le recevoir aussi au cours des prochains jours, nous. Mais c'est ça, il va y avoir... alors, parlez-nous du spectacle de mercredi, justement, ce grand concert en plein air.
On a commencé à répéter ça la semaine passée, là, du gros répertoire symphonique. Vous allez entendre l'orchestre dans toute sa splendeur, des choses virtuoses. On entend toutes les familles d'instruments. C'est le fun parce que c'est pas un programme qui est dilué. C'est pas un programme où est-ce qu'on essaie de donner juste des petits extraits. On fait des œuvres au complet, des choses qui sont... connus puis pas. Donc, Les Pins de Rome, un poème symphonique de Tchaïkovski, l'ouverture du carnaval romain, des choses... Donc, Berlioz, Tchaïkovski, Respighi, c'est découvrir...
Ce sont des œuvres magnifiques.
Oui, absolument.
Et grand public aussi, facile. Mm-hmm. C'est d'une beauté.
Oui, puis il y a encore là, quand il y a tellement de monde, ça crée une atmosphère. Quand on voit 20, 30, 40 000 personnes à côté de nous autres qui trouvent ça le fun. Ouais.
Le lien avec la Méditerranée. S'en va bien sûr en Italie, un peu partout. Et puis, l'an passé, vous aviez présenté Carmina Burana, mais cette fois-ci, ce sera le Requiem de Verdi. Ça, c'est pour la clôture de la virée classique.
Donc ça, c'est notre grand concert là, à plus grand déploiement dans la maison symphonique. On est l'orchestre au complet, chœur, soliste. Le Requiem de Verdi, là, c'est iconique.
Vous savez que j'ai déjà été sur la scène de la Place des Arts. Oui, parce qu'au Cégep, on avait répété ça avec... Et puis finalement, on s'était joint à l'Orchestre symphonique à l'époque. En tout cas, j'étais jeune. Mais en fait, il y a de grands noms. Joyce El-Khoury, cette grande soprano, là. Elle sera là, donc... on l'a vu à l'Opéra de Montréal dans La Reine Garçon, justement.
C'est vrai.
Au cours de l'année qui vient de passer. Et puis, c'est un mélange des styles aussi dans les concerts. Je pense à l'ensemble Constantinople.
Il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont aussi qui sont intéressantes parce qu'on veut quand même... On est de notre temps à l'OSM, donc on a des concerts qui sont axés sur la diversité. Il y a l'ensemble Obiora, qui sont des musiciens professionnels qui sont tous issus de la diversité. On a Constantinople, qui est de la musique du monde. Puis on a le Fakir Trio, qui vient du Maroc. C'est vraiment varié. L'offre est extraordinaire.
Tout à fait, oui. Puis de grands musiciens, là. C'est pas... Vraiment, c'est des gens à découvrir, absolument. Grand guitariste aussi.
Oui.
Miloš, c'est ça?
Son nom m'échappe.
Et puis, il y a aussi il y a le pianiste français Cédric Tiberghien qui va se joindre à l'OSM pour le fameux concerto pour piano de Saint-Saëns nommé L'Égyptien. Encore là, on est... c'est conséquent. Alors, vraiment plein de choses à découvrir.
Chantal, je l'ai déjà dit, je trouve que des fois, il suffit d'une étincelle pour qu'un enfant, un adolescent... se passionne pour quelque chose.
Il faut ouvrir la porte.
Exactement.
Il faut ouvrir
la porte.
Puis, je crois en mon produit. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de dire, vous allez voir, c'est beau. Les gens rendent l'atmosphère est spectaculaire dans la maison symphonique. L'orchestre est bon. C'est un orchestre d'ici. Raphaël, notre directeur artistique, est hyper passionné, plein d'énergie. Il faut venir le voir. Puis là, c'est la façon de s'initier à ça. Puis le reste viendra.
Exactement.
La porte sera ouverte.
Exactement.
Oh, ça a été un bonheur,
Marianne.
Merci.
Marianne.
On va à la virée classique. Ça commence ce mercredi. Alors, en fin de semaine, évidemment, il ne faut pas manquer ça. Il y a des concerts vendredi, samedi, ça se termine dimanche.
Un petit peu
dimanche. Mais enfin, puis le grand concert en plein air, mercredi. Merci infiniment.
Merci mille fois, Marianne, pour l'invitation.
Nous, on s'arrête le temps d'une pause et on revient avec notre deuxième moitié d'heure.
Vous écoutez Aime l'été.
Alors oui, on entame notre deuxième moitié d'heure et ce sera une demi-heure chargée parce qu'on va parler d'intelligence artificielle, mais on a quand même des gens, évidemment, on a une sommité d'une part, éthicienne, pour nous en parler, mais on a aussi un auteur, dramaturge. Alors je vous les présente, Emmanuel Marceau, bonjour.
Bonjour.
Alors oui, spécialiste, bien sûr, en éthique, bioéthique aussi, chercheuse, professeure associée à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Alors, vous êtes enseignante aussi de philosophie et chercheur au Cégep du Vieux-Montréal, ainsi que chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. Alors, évidemment, ça fait de vous une sommité. vous donnez des conférences un peu partout dans le monde. Alors, c'est vraiment, vous êtes... Puis c'est votre... L'intelligence artificielle, vous vous y intéressez de plus en plus, d'ailleurs, je pense. Et puis, il y a avec moi aussi, avec nous, Nathalie, qui est en studio également. Alors, on a, Jean-Philippe Barry-Guerrard. Bonjour.
Bonjour.
Alors, auteur, dramaturge, comédien, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein. Là. Vous avez On vous entend beaucoup dans les médias.
Oui, je suis chroniqueur, animateur. Ça fait beaucoup de chapeaux, là.
Beaucoup de chapeaux aussi.
Des voix aussi.
Et surtout, vous êtes un passionné d'intelligence artificielle.
Ouais, c'est quelque chose qui une chose à laquelle je me suis intéressé d'abord dans la fiction, puis finalement, évidemment pour écrire de la fiction, je me documente, je creuse là-dessus, donc j'ai fini par creuser le sillon, puis c'est un sujet qui est vraiment intéressant, puis qui a beaucoup évolué depuis le moment où j'ai écrit là-dessus pour la première fois en 2018, là,
ouais. Et puis Emmanuel, c'est ça, on vous a mis finalement en lien parce que vous êtes des spécialistes, bien sûr pour en parler très bien. Alors de sorte que nous, Nathalie et moi, nous allons aller prendre un café. On vous laisse parler ensemble.
Mais en fait, ce qui nous intriguait au départ, c'est que récemment dans les journaux, on a vu plusieurs articles. L'intelligence artificielle s'invite chez les romanciers, chez les auteurs. Dans la musique, la publicité,
partout.
Puis là, on s'est dit, il faut en parler, puis il faut vulgariser ça. Ouais. Alors...
Et dans un premier temps, c'est ça, avec Emmanuel, on va d'abord, puisqu'on parle d'éthique, on va commencer par définir c'est quoi l'éthique. J'aimerais ça qu'on ait un aperçu plus précis de l'éthique.
Ouais, c'est une très bonne question, Mme Lacroix. En fait, souvent, il y a de la confusion sur ce que c'est que l'éthique. Et on va associer l'éthique à la déontologie, voire même à la morale. Puis on va utiliser ces termes-là comme des synonymes. Dans la perspective où je travaille en éthique, c'est plutôt l'inverse. On va dissocier l'éthique de la morale et de la déontologie. Lorsqu'on fait de l'éthique, on va essayer de se questionner plus globalement sur c'est quoi la meilleure chose à faire dans les circonstances? Mm-hmm. Pas qu'est-ce que je dois faire, qui est plus de la déontologie ou de la morale, à la limite avec une conception du bien ou de la règle qui nous est donnée puis qu'on applique. En éthique, en fait, on peut même questionner la règle. Est-ce que c'est toujours une bonne règle? Pourquoi? Est-ce que c'est celle qui fait sens? Quelles sont les valeurs qui sont en cause? Qu'est-ce qui vient peut-être porter atteinte à notre dignité et qu'on est en train de réfléchir au plan éthique et pour lesquels on veut finalement mener des questionnements peut-être plus approfondis? Ouais. Donc, l'éthique, souvent, j'aime bien présenter, c'est un art du questionnement.
C'est ça. Donc, alors, c'est vraiment toute la réflexion, par exemple... La valeur la plus importante dans telle situation, la meilleure décision dans telle circonstance. C'est un peu ça, finalement.
Alors, oui,
ça absolument. Veut dire que... D'ailleurs, je veux dire, vous êtes quand même quelqu'un qui aussi travaillait avec des juges parce que vous apportez aussi toute la dimension éthique. Eux, on va prendre des décisions, mais évidemment, il y a aussi tout l'aspect éthique à considérer là-dedans.
Absolument. Je mène un autre projet de recherche qui porte sur la magistrature et l'éthique, finalement, dans l'acte de juger. Ça fait déjà un an et demi que j'ai des collaborations avec différents juges au Québec, en France. J'ai une équipe qui m'appuie avec un co-chercheur, André Lacroix. Et on est appelé, justement, à définir cet espace éthique dans le droit, au sein même du droit. Alors, on est en train de rédiger des articles scientifiques, c'est ce qu'ont fait les chercheurs, mais également un livre qui est un peu plus grand public et qui va permettre de réfléchir sur ces questions-là du rapport entre l'éthique et le droit.
Ouais. Et puis, en fait, vous êtes aussi chercheur au Centre de recherche en droit public dans l'axe gouvernance et éthique à l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Alors là, ça touche directement à notre sujet.
Absolument. Donc, tout à fait, depuis quelques années, je suis chercheur, j'assiste à différentes présentations et j'ai obtenu, mon équipe et moi avons obtenu il y a quelques mois la confirmation d'un financement pour un projet de recherche qui va particulièrement, je pense, intéresser M. Baril Guirard. qui s'intitule « L'immortalité artificielle, perspective éthique, juridique et artistique ».
Wow! Ah, oui.
Alors, il faut mentionner pourquoi, Jean-Philippe, tu as un intérêt. Alors, pour ton roman.
Le livre, oui. Manuel de la vie sauvage.
Oui, j'ai écrit ça en 2018, puis c'est un... En fait, moi, mes premières réflexions reliées à l'intelligence artificielle, je dis que ça a commencé en 2018, c'est pas vrai, parce que quand j'avais 11 ans, j'ai lu un essai du futuriste Ray Kurzweil qui a beaucoup réfléchi à ces questions-là de la place qu'éventuellement l'intelligence artificielle prendrait. Mais là, on parle de ça, ça a été écrit en 2001, puis même avant ça, dans les années 80, ce gars-là écrivait sur le développement de l'intelligence artificielle. Il a entre autres prédit que, d'après lui, autour de 98, un humain serait battu aux échecs par un ordinateur. C'est arrivé en 97. Mais bref, ouais. Ça a beaucoup, disons, façonné ma sensibilité pour ça. Puis moi, une des choses qui m'a beaucoup intéressé quand je me suis mis à écrire plus, c'était l'utilisation de la machine, de l'intelligence artificielle pour faciliter les expériences humaines. Puis je suis tombé sur l'histoire d'une entrepreneure américaine qui s'appelle Eugenia Quida, qui, elle, avait perdu un ami et travaillait, avait développé une technologie de chatbot, de robot conversationnel, puis avait créé un chatbot avec les restes numériques de son ami comme genre de monument funéraire interactif. Fait que moi, je suis parti de cette idée-là, puis je me suis dit, OK, si elle, c'était vraiment à usage personnel, mais si on décide d'en faire un produit de consommation, qu'on offre ça au grand public, qu'est-ce que ça donne? À l'époque où j'ai écrit le livre, c'était vraiment une œuvre de fiction. Puis c'est fou parce que là, maintenant, à tous les trois mois, j'ai quelqu'un qui m'envoie un article de journal. Puis comme, hey, t'as-tu vu ça? Microsoft travaille sur un produit semblable. Il y a telle autre compagnie. J'ai vu dans le New York Times cet hiver une start-up qui le faisait de manière, justement, pour, puisqu'on est dans le sujet plus éthique, c'est-à-dire avec le consentement des sujets. On pouvait payer et faire un genre de, si on veut, un genre de testament numérique qui impliquait de cloner sa voix, son image et tout ça. Puis, donc, moi, ma question, c'était, est-ce que, en fait, puisqu'on est dans un champ complètement libre et qu'on n'a aucun barème, qu'est-ce qui est correct? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce qu'on peut consentir à ça avant sa mort? Est-ce que c'est pas correct de le faire à quelqu'un qui n'a pas consenti? Fait que c'est des questions qui sont pas encore vraiment explorées, je trouve.
C'est pour ça que Emmanuel Marceau est là, parce que ça va être son projet de recherche.
Mais en fait, tout à fait, les questions que vous soulevez, c'est au cœur du projet de recherche. Là, c'est deux co-chercheurs qui m'appuient, Marie-Ève Lacroix et Charles-Étienne, qui sont tous les deux profs de droit à l'Université d'Ottawa et à l'Université de Sherbrooke. Mmh. Et en fait, dans le contexte du projet, c'est qu'on veut justement ces questions-là, tant au plan éthique que légal, que vous soulevez, hein, de dire, bon, ben, est-ce qu'on peut consentir? Est-ce que c'est valable? Et quoi si quelqu'un s'y oppose? Est-ce qu'on peut le faire sans le consentement d'une personne? Mm-hmm. Jusqu'où aller dans cette réappropriation, réanimation artificielle d'une personne qui est décédée? C'est exactement le type de questions qui sont au cœur de notre démarche à la fois de recherche, et là, je vous fais un clin d'œil, Monsieur Baril-Guérard, parce que on a aussi une dimension artistique à notre projet, c'est-à-dire qu'on veut faire une recherche-création, à savoir que les résultats de notre analyse au plan éthique et légal vont donner lieu à des œuvres artistiques d'étudiants au cégep, à l'université, pour essayer de finalement sensibiliser les gens à ces enjeux-là, donc que ça soit grand public et qu'il y ait des retombées, parce que oui, la recherche est fort intéressante et importante, mais on va se le dire, la plupart des gens ne vont pas lire les articles nécessaires. Donc, les arts vivants et toute forme artistique d'expression va beaucoup plus aller rejoindre les gens. Donc, on avait cette ouverture, cette sensibilité, ce désir d'avoir un volet artistique à notre projet de recherche.
Je trouve ça vraiment judicieux parce que la science-fiction a beaucoup historiquement nourri la recherche scientifique et a parfois aussi été une façon d'amener ça à l'œil du grand public ou de la vulgariser. Fait qu'effectivement, pour moi, c'est des vases communicants. T'sais, je m'intéresse beaucoup à la science, puis je sais qu'il y a beaucoup de scientifiques qui, parfois, particulièrement dans le domaine de la technologie, essaient de finalement donner vie à des choses qui sont apparues d'abord en fiction. Fait que pour moi, ça me semble pas du tout farfelu comme proposition.
Ah, ben, non. Alors, c'est ça. Ben, on vous a invité pour vous mettre en lien l'un avec l'autre. Mais en fait, c'est ça. Moi, j'ai voulu faire cette émission-là, puis vous réunir parce que, bon, récemment, on a vu même des concours de beauté, les concours de Miss Intelligence Artificielle. En fait, il y a plus de limites, là. On a l'impression que c'est un peu le Far West. Et puis que c'est un concours, finalement, entre les gens qui s'intéressent au numérique, qui sont dans le domaine et qui rivalisent, finalement, d'ingéniosité pour arriver à leur fin. Mais en fait, il y a toujours des intérêts pécuniers là-dedans.
Mais c'est un des gros problèmes en ce moment, puis je dirais même le simple terme intelligence artificielle, je sais pas si Emmanuel est d'accord avec moi, mais est parfois un terme un petit peu trop générique qui un gros parapluie qui intègre toutes sortes de technologies différentes qui, puis des fois on perd un petit peu, je trouve, de nuances quand on s'arrête à ce terme-là, parce que est-ce qu'on est en train de parler d'intelligence artificielle générative, donc ChatGPT qui peut écrire par exemple, ou bon DALL-E qui peut dessiner, est-ce qu'on est dans des choses comme de la reconnaissance faciale, est-ce qu'on a de la modélisation?
Oui, puis à la fois, bon, il ne faut pas tout démoniser, bien sûr, parce qu'il y a des applications au niveau de l'intelligence artificielle qui sont formidables.
Ah, absolument. Cela dit, il y a eu, en tout cas, dans les dernières années, à cause de tout l'intérêt qui a été suscité principalement avec les IA génératives, avec ChatGPT, par exemple, une bulle une bulle économique assez grosse avec beaucoup de compagnies qui ont essayé de tabler sur le simple succès de ce buzzword-là, intelligence artificielle, et là, sort des produits, puis dès que, c'est comme si on met l'étiquette IA dessus, et là, d'un coup, ça devient génial et ça devient révolutionnaire. Tu sais, juste dans les derniers mois, on a eu des flops commerciaux avec une machine qui s'appelait Rabbit qui prétendait changer le monde, alors que c'était comme finalement un genre de téléphone un peu tronqué, marchait pas très, très bien. Humane aussi, une compagnie qui promettait une sorte de décusson connecté qui était branché à ChatGPT. Encore là, ça a pas du tout pogné et il y a eu énormément d'argent qui a été brûlé, beaucoup de valeurs, de spéculation là-dessus. Donc, je pense que des fois, faut un peu se méfier du trop d'engouement. Après ça, cela dit, il y a du positif là-dedans. Je suis certain qu'Emmanuel pourra nous le dire. Le fait qu'il y ait de l'intérêt, ça veut aussi dire qu'il y a de l'argent public et des gens qui sont intéressés à ce que ces affaires-là se développent intelligemment.
Ouais. Alors, Emmanuel, oui. Non, allez-y.
Ben, je voulais juste renchérir et dire qu'effectivement, il y a des enjeux commerciaux qui sont de taille. Et bon, évidemment, les GAFAM de ce monde sont bien engagés et investis depuis des années pour le développement de l'IA, le déploiement. Et ça va très rapidement. Vous avez sans doute vu, il y a un an et demi environ, il y avait une lettre ouverte demandant un moratoire de grands noms, un mouvement un peu international pour dire ça va vite et on réfléchit peu finalement aux conséquences de ce qu'on crée. Vous soulignez là l'exemple des concours de beauté, avec des Miss IA. Mm-hmm. Donc, il y a tout le phénomène de Girlfriend AI aussi, qui est plus simplement du domaine de la pornographie, mais aussi de l'affect, de l'affectif, donc d'avoir une relation un petit peu comme dans le film Her, que oui. Je pense qu'il nous a tous un peu interpellés et marqués là, à une certaine époque. Mais voilà, la science-fiction rejoint la réalité, ça va très, très vite. Je rédigeais mon projet de recherche à l'automne dernier et à notre connaissance, il n'y avait pas encore de commercialisation, mais on déposait le projet et là, oups, on a trouvé sur Facebook en Chine, ça y est, il y a une compagnie qui fait ça maintenant, désormais, qui propose des avatars posthumes à des familles endeuillées. Et d'ailleurs, dans le projet, il y a toute une dimension aussi qui est intéressante à réfléchir au plan psychologique. Hein, qu'est-ce que ça signifie sur notre rapport à l'autre, notre rapport au deuil, notre rapport au réel, d'être finalement dans une genre de bulle avec des avatars finalement qui n'existent pas. Et toute la vulnérabilité aussi à laquelle on s'expose, dont on est souvent moins conscient, hein, a priori. Mm-hmm.
Mm-hmm. Ouais, mais
Jean-Philippe, il sait, j'ai perdu mon conjoint. Je rêverais d'avoir un avatar pour pouvoir parler à mon conjoint, mais en même temps, ça crée une dépendance, je trouve. C'est un être qui n'existe pas.
Elle vient de parler justement, Emmanuel, vous venez d'en parler, le rapport au réel.
Exactement.
À partir du moment où on crée des gens qui n'existent pas, qu'on voit des photos avec des gens qui ont jamais existé, qu'on s'invente une planète en quelque sorte, on peut très bien, à un moment donné, on aura des photos de notre planète avec des photos des paysages qui n'existent pas du tout. Alors vraiment, ça questionne notre rapport au réel.
Oui, exactement.
Absolument. Il y a des questions philosophiques, ontologiques de fond hein, avec ces nouvelles technologies. J'aimerais aussi souligner un point. Il y a comme une espèce de croyance ou de propension. Quand c'est nouveau, la technologie, c'est nécessairement bon. Mm-hmm. Mais ceci est faux. Dans le sens que oui, la technologie, et grâce à la science, la technologie, on a beaucoup amélioré notre qualité de vie, mais il y a eu aussi des dérives. Et je pense que dans le cas des intelligences artificielle pour finalement prendre en compte ces diverses ramifications qu'on peut avoir de l'IA, que ce soit par l'IA générative, des avatars, etc. Effectivement, je pense qu'il faut que ça nous alerte aussi au plan des risques, au plan des conséquences individuelles, mais aussi de société.
Jean-Philippe, toi qui es auteur, comédien, on a parlé beaucoup de doublage, l'intelligence artificielle avec les voix et tout ça. Est-ce que toi, ça te t'as peur de ça? Est-ce que tu crains l'arrivée de l'intelligence, en fait, cette arrivée-là?
Moi, c'est drôle parce que je pense pas que mon opinion est représentative de la plupart des gens qui font ce que je fais dans la vie, c'est-à-dire créer et ou interpréter, mais c'est pas une chose qui m'inquiète parce que je trouve qu'on est déjà trop loin dans le processus pour pouvoir revenir derrière. Moi, j'ai accepté le fait que à moyen terme, des acteurs, par exemple, moi, je le fais beaucoup, je fais de la voix, publicité, des choses comme ça, mm-hmm. du doublage, des narrations. Je sais que c'est un métier qui va être, voué à disparaître, ou en tout cas, définitivement, qu'il va y avoir une contraction dans ce marché-là à moyen terme, parce que, soyons réalistes, tout le monde veut consommer de manière éthique, mais c'est une affaire qui coûte très, très cher, consommer de manière éthique. Et si on a l'occasion d'avoir, par exemple, une voix de pub qui a été faite par IA, que tu as juste payé une licence pour le logiciel versus engager un comédien qui va te coûter quelques milliers de dollars pour mm-hmm. une session, c'est sûr que les gens vont économiser là-dessus. Donc, moi, disons que, tu sais, j'essaie de me poser la question moi-même, est-ce que je m'ennuie des forgerons? Pas vraiment. C'est un deuil qu'on va devoir faire, puis il y a des gens qui vont souffrir par rapport à ça. Mais moi, mes questionnements puis mes inquiétudes sont plus au niveau collectif. On parlait tantôt, d'un monde peuplé uniquement d'avatars et de mondes qui ne sont pas réels. C'est une affaire à certains égards qui existe déjà. Par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de réseaux sociaux qui ont souffert dans la dernière année de la prolifération de bots qui créent du contenu de très, très mauvaise qualité, mais énormément d'utilisateurs... Pong, mort à l'hameçon. Fait que là, il y a eu toute une série de photos qui étaient publiées par des comptes assez nuls sur Facebook cet hiver, par exemple. C'était beaucoup relevé, entre autres, par 404 Media, médias technologiques. Des enfants, des petits-enfants dans un village africain qui font une sculpture en bouteille de plastique. Puis, s'il vous plaît, partagez cette photo. Personne n'aime jamais ce genre de choses. Ou un ancien combattant sévèrement blessé.
Ce sont des contenus qui n'existent pas.
Qui sont créés par IA. Pourquoi? Après ça, rediriger vers une page où il y aura un élément de publicité, puis une personne pourra faire de l'argent avec ça. Sauf que là, les gens sont en train d'interagir avec du contenu qui croient être créé par des humains, mm-hmm. mais qui sont uniquement des fermes à bottes pour ramasser de l'argent à quelques personnes.
Et Emmanuel, en fait, on parle beaucoup de transparence en amont. C'est-à-dire que, bien sûr, que souvent, là, on parle d'éditeurs d'auteurs, d'éditeurs. On va accepter de plus en plus là, que l'intelligence artificielle fasse partie du processus de création. Ça commence à être accepté. Des fois, on voit... justement, qu'on dit, bon, tel livre a été assisté à 5 % par l'intelligence artificielle. Mais c'est ça, tout est dans la question de transparence et c'est là le problème, là. Il n'y en a pas actuellement.
Bien, en fait, je ne sais pas si c'est si accepté que ça, mais assurément, il y a des réflexions, des discussions, tant dans le domaine, vous le soulevez, là, pour éditer des livres, mais aussi, je vous dirais, dans la recherche, mais également dans les universités, les cégeps. Il y a beaucoup de questions qui se posent à l'heure actuelle, mais il n'y a pas tant de consensus. Mm-hmm. À savoir, je vous donne juste deux exemples. Je suis rattachée à ces deux universités, donc je peux voir et comparer l'évolution. L'Université de Montréal envoyait un mémo l'été dernier en disant que les chargés de cours, les professeurs devaient préciser dans le plan de cours si l'IA était permise ou non et dans quelle mesure elle l'est, si elle est dans les travaux. Et bien sûr, les étudiants doivent citer s'ils ont utilisé l'IA pour faire une partie de leur travail ou s'inspirer d'idées de l'IA. S'il n'y a pas de mention dans le plan de cours, ben c'est réputé être interdit. Mm-hmm. L'Université de Sherbrooke a une approche différente que l'Université de Montréal. Même principe, bon, les profs doivent faire les mentions dans le plan de cours, sauf que s'il n'y a rien, là, il y a une présomption que c'est permis d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc là, je vous donne juste deux petits exemples, c'est anecdotique, mais ça permet de voir qu'on n'est pas au même endroit dans nos différents établissements. Puis je peux me permettre aussi de citer au Cégep du Vieux-Montréal, j'ai participé à des travaux assez importants sur quelques années pour développer une charte sur l'IA responsable, puis c'est inspiré grandement de la Déclaration de Montréal, qui est un document qui a été co-construit à partir des années 2015-2016, là, qui a abouti en 2018, avec des principes, des valeurs pour finalement le développement d'une IA responsable. Et évidemment, il y a le principe de transparence. Et au Cégep, on s'est dit, ben à la fois, oui, les étudiants, mais on va faire la même chose, nous, les professeurs ou les différents départements, par exemple, des services aux étudiants qu'on pourrait donner par un chatbot ou autre. Hein, donc, on veut que ça soit clair, on veut que ça soit explicite et surtout, on veut, dans la mesure où c'est possible, permettre un consentement libre et éclairé des personnes d'interagir ou non avec une IA. Parce qu'il y a toutes sortes d'enjeux éthiques et de risques, je reviens là-dessus, qui peuvent se poser dans l'interaction avec une IA.
C'est intéressant, ça, ce que Emmanuel soulève sur le genre de certification ou de transparence sur l'utilisation de l'IA. Moi, dans les recherches que j'ai faites dans les derniers mois, ce qui ressortait beaucoup en parlant avec différentes associations qui représentent des corps de métiers artistiques, là, par exemple, je parle avec la Guilde des musiciens, Lyon des artistes, la position, juste en un an, a énormément changé par rapport à l'IA. On est passé d'une interdiction totale à, bon, une ouverture, mais voir comment peut-être il y aura quelque chose à aller chercher pour les artistes là-dedans. Mais une chose qui revient, puis ça, c'est vrai pour tous les corps de métier, c'est de la transparence sur l'utilisation. Mm-hmm. Est-ce que dans cette œuvre ou cette pub ou cette communication, il y a de l'IA générative qui a été utilisée? Et est-ce que des modèles ont été entraînés sur X ou Y artistes? Donc, qu'on sache si notre matériel a été utilisé. Je dirais que ça, peut-être qu'à moyen terme, ça n'aura pas vraiment de valeur parce qu'on peut se douter qu'à peu près tout ce qui a été produit par l'humain a été maintenant utilisé dans des modèles d'entraînement. Mais ça repose beaucoup sur cette confiance-là. Puis l'exemple du chatbot, du robot conversationnel, c'en est un bon parce que actuellement, si on va sur le site d'une compagnie de téléphone ou n'importe quelle compagnie puis qu'on veut parler avec le service à la clientèle, on ne le sait pas. On peut présumer que la plupart du temps, ça risque d'être un robot conversationnel, mais on ne le sait pas. Puis ça serait le fun comme consommateur qu'on puisse savoir est-ce qu'on parle à un humain ou à une vraie personne.
Oh oui, c'est vrai. Exactement. Mais là, évidemment, il faut encadrer tout ça, mais c'est que la technologie va tellement vite que les décideurs, les législateurs, finalement, peinent à encadrer ça. C'est le problème présentement.
Bien, en fait, les processus en place dans nos démocraties pour adopter des lois sont habituellement, on peut dire, assez lents, surtout si on compare au développement là, technique là, qui se en termes de jours, il se passe des nouvelles choses en IA. Et bon, alors c'est sûr que ce sont de longs processus. Ça a été d'ailleurs aussi ça décrié au Canada, Joshua Benzio, que vous avez sûrement entendu parler, là, qui est une sommité en termes d'intelligence artificielle là, de par le monde, qui est un des trois chercheurs les plus cités dans toutes les disciplines confondues, mais beaucoup de pression, en fait, souvent des sorties dans les médias pour demander finalement au gouvernement de Trudeau d'aller plus vite sur l'adoption là, de son projet de loi. Mais à l'heure actuelle, c'est toujours pas adopté. L'Union européenne vient d'adopter une loi, un règlement, donc là, ça bouge plus de ce côté-là. Donc, nous, de notre côté, ben il y a quand même des repères légaux qui existent. D'ailleurs, ma collègue Marie-Ève Lacroix et avec un autre collègue, Nicolas Vermès, ils ont publié un livre qui s'appelle « Responsabilité IA » il y a quelques mois. Et l'idée, c'est de faire un peu le bilan de la responsabilité civile, qui est la responsabilité, je vais faire ça simple, entre les personnes quand il y a un dommage, ou une entreprise et des personnes, et de s'interroger du point de vue de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui existe présentement dans le droit, puis qu'est-ce qui pourrait être utilisé. Donc, il y a quand même des travaux qui font, il y a quand même un cadre juridique existant, mais bien sûr, certains disent que ça doit aller plus loin, être plus précis et surtout éviter certaines catastrophes qui pourraient finalement faire en sorte qu'il y aurait un point de non-retour. Je suis un peu d'accord, on l'a déjà passé, le point de non-retour, c'est-à-dire que ces technologies sont déjà dans nos vies, mais je pense qu'il y a quand même toute une marge de manœuvre de dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on permet, qu'est-ce qu'on ne permet pas, et comment aussi au niveau de la conception de l'IA, donc ceux qui conçoivent le code, les systèmes d'intelligence artificielle, comment là aussi il doit avoir une meilleure prise en compte des dimensions éthiques et légales dans la conception même et de la transparence, un principe de transparence pour qu'on sache finalement comment ces IA ont été entraînées, sur quelles données, est-ce que les gens ont consenti à l'usage de leurs données pour entraîner des IA. Bref, il y a toutes sortes de questions qui se posent.
Oui. Et donc, c'est évidemment, est-ce que le problème peut se résoudre aussi au niveau international, que les pays s'entendent? Est-ce que, bon, je sais que l'UNESCO fait beaucoup dans ce sens-là aussi.
On peut le souhaiter.
Parce que vous allez régulièrement donner des conférences à l'étranger, donc vous en parlez, j'imagine, avec vos pairs, avec vos collègues.
Bien, c'est sûr que tout ce qui est dimension justement des droits de l'homme internationaux, d'essayer d'avoir des bases communes pour penser une meilleure humanité, si on regarde rétrospectivement, il y a des pas qui sont faits, mais c'est toujours fragile et c'est toujours difficile. Et le problème quand on est dans un contexte de mondialisation, c'est que bon, ben si c'est un pays se dote d'une loi qui est trop sévère, ben on va aller dans un autre pays. Et là, il y a ça se fait pour plein d'autres secteurs là de manufacturiers ou autres, mais on peut penser que l'IA ne fera pas exception à cette hein, l'industrie de l'IA, à ce type de magasinage là, puis qui font en sorte que ben ça peut passer dans les filets. Donc c'est pas tout de penser des bonnes lois de conception d'usage, mais aussi il faut voir à développer une conscience internationale. Et là, ben c'est pas gagné parce qu'effectivement c'est toujours complexe quand on est dans des relations internationales avec toutes sortes d'intérêts, de visions, de cultures, d'agenda, de politiques différentes.
Bon, le mot de la fin avec Jean-Philippe.
Moi, je dirais, je pense qu'il faut pas. Oui, c'est important de pas embrasser ça et dire que toute nouvelle technologie est nécessairement salvatrice et la meilleure chose au monde. Mais je pense que la meilleure façon de pas en avoir trop peur, c'est de jouer avec les outils qui sont disponibles actuellement. Là, par exemple, de d'IA générative, jouez avec. Comprenez-le. Comme ça, peu importe le domaine dans lequel vous travaillez, vous ne tomberez pas des nues quand quelqu'un propose une nouvelle façon de travailler. Je pense que de garder ça à des mètres de distance de soi, ce n'est pas plus simple.
Ce n'est pas la solution. Non.
Donc,
non.
Les gens qui nous écoutent, utilisez ChatGPT, servez-vous-en, utilisez-les pour...
Intelligemment, évidemment. N'utilisez pas les informations que ChatGPT vous donne comme profession de foi, évidemment. Non. Mais développer une aisance avec ça, je pense que c'est déjà une bonne façon de ne pas en avoir peur.
S'informer et lire aussi, ce sujet.
Bien sûr.
Et puis, ben, on suit vos recherches, Emmanuel. Alors, on espère que ces recherches seront sans doute partagées éventuellement. Et puis, ben, c'est
absolument.
Ça.
Absolument.
Ouais.
Puis si je peux juste me permettre une petite parenthèse, l'IA aussi peut faire des grandes avancées pour les gens qui sont en situation de handicap. Donc, tout le volet EDI, il y a vraiment des choses qui peuvent être très porteuses, tant au plan de l'éducation, de l'emploi. Donc, il y a aussi beaucoup de bons qu'il faut souligner.
Merci beaucoup, Emmanuel. Ça a été fort intéressant.
Non.
Rapidement.
Ben moi, je veux juste dire, achetons un roman aujourd'hui.
Oui.
Jean-Philippe, ici présent,
qui
en a pondu plusieurs.
J'en ai quatre.
T'en as quatre. Achetons un roman.
Nous sommes le 12 août, alors on encourage aussi les librairies indépendantes.
Oui.
Merci, Emmanuel Marceau. Merci, Jean-Philippe Barry-Guerrard, d'avoir été là. Ça a été une demi-heure fantastique.
Un plaisir.
Et bonne journée à tous nos auditeurs.